prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Oppé, je suis chercheur postdoctorant au CIRB, Centre interdisciplinaire pour la recherche en biologie, qui est une unité de recherche hébergée au Collège de France à Paris. Je suis lauréat d'un prix Grandes avancées françaises en biologie, décerné par l'Académie des sciences et la Fondation Mergier-Bourdeix. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail de recherche sur les motifs de couleur qui ornent les animaux, et en particulier de comment se forment leurs rayures. Donc, en tant que biologiste du développement, mon travail consiste à étudier, décrire les mécanismes qui contrôlent la formation des êtres vivants, c'est-à-dire comprendre comment une cellule unique, appelée ovule ou œuf, peut générer des millions de cellules possédant chacune des propriétés spécifiques à l'âge adulte. On peut se dire que mon travail, c'est un peu comme essayer de faire un puzzle composé de dizaines de milliers de pièces. Sauf que ce puzzle, il n'est pas en deux dimensions, posé sur une table, mais c'est une structure complexe, composée de formes tridimensionnelles qui, à chaque étape du développement, évolue vers une forme différente. C'est donc un puzzle en quatre dimensions, extrêmement compliqué à appréhender et qui constitue un défi gigantesque. Cependant, c'est une importance cruciale, car il permet de comprendre la biodiversité, le cancer, ou encore de mettre au point la médecine régénérative de demain. Donc parmi tous les événements qui ont lieu pendant le développement embryonnaire, je m'intéresse à un mécanisme particulier, c'est celui qui permet aux cellules de se différencier. C'est un sujet passionnant car un faible nombre d'acteurs, quelques centaines à peine, sont connus, ils sont très conservés au cours de l'évolution puisqu'on les retrouve dans les trois grands groupes d'animaux, c'est-à-dire les insectes, les invertébrés et les vertébrés, et ces quelques acteurs génèrent toute la diversité du règne animal. Donc comment cela est possible? Pour répondre à cette question, j'ai rejoint en 2015 l'équipe Formation et évolution des motifs périodiques dirigée par Marie Manceau au Collège de France. Ensemble, nous avons cherché à comprendre comment la peau d'un embryon, qui initialement est composée de cellules toutes identiques, allait devenir organisée spatialement en domaine de couleur avec des cellules différentes selon leur position dans tel ou tel domaine. Pour faire cela, nous avons cherché à identifier le mécanisme biologique qui assure la transition entre le tissu naïf et le tissu différencié. Donc il faut savoir qu'il existe deux grandes théories pouvant expliquer cette transition. Donc la première théorie s'appelle l'instruction. Donc dans cette théorie, une source extérieure au tissu va émettre un signal qui va diffuser dans l'embryon et ce signal va former un gradient devenant de moins en moins concentré plus la distance avec la source augmente. C'est exactement comme avec le soleil, plus on s'éloigne de lui, plus sa chaleur devient imperceptible. Eh bien, ce gradient sert d'information de position aux cellules qui vont se différencier différemment selon leur position le long de ce gradient. C'est-à-dire que si elles sont proches ou loin de la source, elles ne vont pas adopter le même destin. Dans la deuxième théorie, il n'y a pas de source, mais ce sont les cellules elles-mêmes qui vont s'auto-organiser en domaine à partir de petites fluctuations qui, par amplification, stabilisation progressive, vont créer des domaines distincts. Donc, si on reprend la comparaison avec le soleil, eh bien ici, la chaleur n'est pas fournie par le soleil, mais est fournie par une source interne qui s'auto-organise sur Terre, ce qu'on appelle le magma. Donc, au laboratoire, nous avons essayé de chercher à identifier laquelle de ces deux théories, l'instruction par une source externe ou auto-organisation sans source, est celle qui explique la formation des motifs de couleur. Pour cela, nous avons utilisé une approche expérimentale très innovante. Donc, il faut savoir que la plupart des laboratoires de biologie n'utilise qu'une seule espèce animale, par exemple la souris. Ils obtiennent leurs résultats en comparant un animal normal avec un animal mutant qu'ils ont généré en utilisant des techniques de génie biologique. Dans notre laboratoire, nous avons une philosophie assez différente. Nous pensons que l'évolution a déjà résolu la plupart de nos défis biotechnologiques et que la comparaison d'espèces proches, c'est-à-dire utiliser la variation naturelle qui est présente partout dans la nature, est une stratégie à la fois élégante et très complémentaire aux approches de génie génétique classique. Donc, nous avons essayé de comparer des animaux proches d'un point de vue évolutif, mais également proches d'un point de vue motif de couleur, et, si possible, faciles à étudier en laboratoire. Donc, nous avons trouvé quelques animaux qui constituent cette perle rare que nous recherchons, en comparant différents membres de la famille des gallinacées. Donc les gallinacées, c'est ce qu'on appelle communément la volaille, c'est-à-dire les cailles, les faisans, les perdrix ou encore les paons. Ces animaux possèdent les trois qualités requises. Ils sont tous proches les uns des autres d'un point de vue évolutif, car ils appartiennent à la même famille d'animaux. Ensuite, tous les poussins de cette famille possèdent des rayures noires et jaunes dans le dos. Si vous avez déjà vu des poussins tout jaunes ou tout noirs, il s'agit très probablement de mutations de couleur. Et enfin, ils sont faciles à étudier en laboratoire car le développement embryonnaire a lieu dans un œuf pouvant être placé dans un incubateur. Donc, pour utiliser cette variation naturelle des gallinacées, j'ai recherché à obtenir des œufs et pour cela, j'ai sillonné la France à la rencontre d'éleveurs passionnés qui ont produit tous les œufs que j'ai utilisés dans cette étude. J'ai pu récupérer des œufs pour 10 espèces différentes et ainsi, j'ai pu comparer les points communs et les différences entre les 10 espèces. Cela m'a permis de mettre en évidence des différences notables comme le nombre de bandes ou encore des variations dans la largeur de bande. Par contre, j'ai aussi mis en évidence des points communs très importants comme la position des rayures qui est conservée entre toutes les espèces. Donc, en me basant sur ce travail de description, j'ai recherché des gènes dont l'expression dans la peau corrèle avec les caractéristiques des rayures. Parmi tous les gènes testés, j'en ai trouvé un qui s'appelle agouti. Agouti est un gène connu pour induire la production de pigments jaunes au niveau du ventre chez les souris. Ce que j'ai vu, c'est que chez les galliformes, il s'exprime également dans le ventre, mais aussi dans le dos en bande longitudinale plusieurs jours avant l'apparition des pigments jaunes ou noirs. De manière vraiment remarquable, la position et la largeur des bandes agouties corrèlent parfaitement avec la position et la largeur des bandes jaunes, et ce dans chacune des espèces. Cela signifie que agouti est une empreinte embryonnaire précoce, donc en quelque sorte un patron de couture, qui préfigure la position des bandes jaunes dans la peau de l'embryon. Donc, ce que j'ai essayé de faire ensuite, c'est d'étudier comment agouti, quel était son rôle dans la formation des bandes. Donc pour cela, j'ai utilisé une approche beaucoup plus classique puisque j'ai utilisé des cailles du Japon mutantes pour le gène agouti. Ce sont des lignées d'animaux qui sont élevés à l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche en Agronomie. Et en fait, je les ai contactés, ce qui m'a permis de récupérer deux lignées d'animaux. Dans la première lignée, la dose d'agouti est fortement augmentée et cela induit une augmentation de la largeur des bandes jaunes. Dans la seconde lignée, c'est la situation inverse. La dose d'agouti est fortement diminuée, ce qui provoque une diminution de la largeur des bandes jaunes. Donc en conclusion, la largeur des bandes jaunes est régulée par la dose d'agouti. Donc ce résultat explique la variation de largeur que j'ai observée en analysant les 10 espèces, mais ça n'explique pas pourquoi la position des bandes est toujours la même entre les espèces. Pour tester cela, j'ai utilisé une technique de greffe hétérospécifique, donc on va revenir sur ce terme, inventé par une académicienne appelée Nicole Ledouarin. Donc il s'agit de prélever sur un embryon donneur un morceau de tissu et de le greffer dans un autre embryon appelé receveur. Donc communément, c'est ce qu'on appelle une greffe. On dit qu'elle est hétérospécifique car ici, il s'agit de prendre le tissu dans une espèce, par exemple la caille du Japon, pour le transférer dans une autre espèce, par exemple un paon. Cette expérience permet de tester la théorie dite d'instruction. En effet, si le tissu greffé possède des capacités d'induction, alors l'embryon receveur deviendra, dans la zone de greffe, similaire à l'embryon donneur. Donc j'ai testé différents tissus embryonnaires et j'ai mis en évidence un rôle particulier d'une structure transitoire appelée somite. Donc cette structure génère les os, les muscles, le derme. Et en transférant le somite d'un faisan commun dans une caille du Japon, nous avons transféré le motif de couleur de la caille du Japon dans le dos du faisan. Cette expérience montre que le SOMIT induit la position des bandes jaunes. Donc si on prend tous ces résultats ensemble, il montre que les rayures dorsales des galliformes est le résultat de deux mécanismes successifs. Tout d'abord, un événement d'instruction provenant du SOMIT induit la position des bandes, puis agoutit dans un deuxième temps, agit en relais pour définir localement quelle sera la largeur des bandes. Donc le mécanisme impliquant la transition d'un tissu naïf sans rayure vers un tissu différencié avec rayure est dirigé par plusieurs mécanismes successifs. Donc les deux théories que je vous ai présentées précédemment, elles ne doivent pas être vues comme deux écoles opposées, contradictoires, mais en fait comme des mécanismes complémentaires, tels le soleil qui est la source extérieure d'énergie et le magma qui localement répartit la chaleur. Donc avant de conclure cette présentation, je voudrais revenir sur quelques considérations évolutives que soulève ce travail. Mes résultats permettent de mieux comprendre comment évoluent les motifs de couleur. D'une part, le SOMIT est une structure embryonnaire particulièrement importante qui ne peut être modifiée sans lourdes conséquences sur le développement embryonnaire. De ce fait, elle contraint fortement l'évolution des couleurs chez les galliformes en imposant le maintien des rayures et la position des rayures. Parallèlement à ça, agouti, lui, est un gène qui possède peu de fonctions autres que celles que d'induire la couleur jaune. Ce gène est donc, entre guillemets, libre d'évoluer pour générer la diversité que l'on voit dans la nature. Alors ces résultats n'expliquent évidemment pas toute la variété vue dans la nature. Ils n'expliquent pas les taches du léopard ni la formation de toutes les rayures du zèbre. Ils expliquent simplement la formation d'une rayure dans le dos. Ils expliquent en fait une petite partie du grand pulse dont je vous ai parlé. Donc maintenant, au laboratoire, nous essayons de déterminer comment certaines espèces génèrent de très nombreuses rayures. Nous avons deux hypothèses. On peut supposer que c'est une répétition de ce même mécanisme que je viens de vous présenter pour chaque rayure supplémentaire. Ou alors, on peut imaginer qu'il existe aussi un mécanisme additionnel qui permet d'étendre latéralement le nombre de rayures. Enfin, nous cherchons à comprendre comment l'orientation des rayures peut être modifiée. En effet, tous les poussins de galliformes possèdent des rayures longitudinales, les liées à l'orientation très conservée du SOMIT. Cependant, de très nombreuses espèces, telles le zèbre, possèdent des bandes horizontales, dont le mécanisme qui permet leur orientation pendant le développement reste un mystère. Donc je tiens à remercier tous les membres de l'équipe, Marie Manceau qui dirige l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, pour leur participation très active dans cette étude. Je voudrais remercier en particulier Camille Curance qui est étudiante en thèse et qui a réalisé toutes les expériences de greffe avec moi. Je remercie ma famille pour leur soutien sans faille, ainsi que l'Académie des sciences et l'équipe de Canal Academy pour l'opportunité de vous présenter mon travail de recherche. Merci et bonne journée.